Deuxième partie. Le relais. Chapitre 1. Une comptine lui avait trotté dans la tête toute la journée, le genre de truc obsédant qui vous rend dingue, qui ignore avec dédain tout ordre du conscient lui enjoignant de cesser. Ça donnait à peu près ce qui suit. De pluie, plic. Ploc, les plaines sont pleines, voici la joie, voici la peine, mais de pluie, plic, ploc, les plaines sont pleines. Linceul du temps, vie de souillure, de cette vie rien ne perdure, pourtant c'est du pareil au même, car que démence ou raison règne, la pluie, plic, ploc, remplit les plaines. Va dans l'amour, défie tes chaînes, ou l'avion portera la haine. Il ne savait pas ce que c'était, cette vion, dans le dernier couplet. Mais il savait pourquoi cet air lui était venu au départ. C'était ce rêve récurrent, sa chambre dans le château, sa mère qui lui avait chanté cette chanson. Lui était couché solennellement dans son lit minuscule, près de la fenêtre de toutes les couleurs. Elle ne la chantait pas le soir parce que tous les petits garçons nés pour le haut-parler devaient affronter seuls le noir. Mais au moment de la sieste, et il se rappelait la lumière grise et lourde de pluie qui dessinait des arcs-en-ciel tremblotant sur la courte pointe. Il sentait le froid dans la pièce et la chaleur pesante des couvertures, l'amour qu'il avait pour sa mère et ses lèvres rouges, cette mélodie entêtante avec ses petites paroles absurdes et sa voix. Et voilà qu'elle revenait le rendre fou, comme un chien courant après sa propre queue, tournant dans son esprit tandis qu'il marchait. Il ne lui restait plus d'eau et il savait qu'il avait tout d'un homme mort. Il n'aurait jamais cru en arriver là et le regrettait amèrement. Depuis midi, il ne regardait plus la route devant lui, mais ses pieds. Dans ce coin, même l'herbe du diable était devenue rabougrie et jaune. La croûte épaisse s'était désintégrée par endroits où ne subsistaient que des gravats. Les montagnes ne s'étaient pas sensiblement espacées, bien qu'il se fût passé 16 jours, depuis qu'il avait quitté la cabane du dernier colon, un jeune homme mi-dément, mi-saint d'esprit, en bordure du désert. Il avait un oiseau, se rappela le pistolero, mais il lui fut impossible de se souvenir de son nom. Il regardait ses pieds se soulever et s'abaisser comme les navettes d'un métier à tisser. Il écoutait la petite chanson absurde tournée en boucle dans son esprit en une pitoyable bouillie. Il se demanda quand il tomberait pour la première fois. Il ne voulait pas tomber, bien qu'il n'y eût personne pour le voir. C'était une question d'amour-propre. Un pistolero connaît l'amour-propre, cet os invisible qui vous tient le cou raide et la tête haute. Ce que son père ne lui avait pas transmis, c'est Corte qui le lui avait inculqué à coups de pied, professeur de maintien moral pour tous ses garçons, s'il en était. Corte, ouais. Avec son gros nez rouge comme un gros oignon écarlate et sa figure balafrée. Il s'arrêta et leva les yeux. Cela lui fit tourner la tête, et l'espace d'une seconde, tout son corps sembla flotter. Contre l'horizon lointain, les montagnes rêvassaient. Mais il y avait autre chose au-dessus de lui, beaucoup plus près. À quoi ? 7 kilomètres à peine ? Il plissa les yeux dans sa direction, mais il avait les yeux chassieux de sable et aveuglés par cette lumière blanche. Il secoua la tête et reprit sa marche. La comptine tournait et bourdonnait. Environ une heure plus tard, il tomba à terre et s'écorcha les mains. Il regarda les minuscules gouttes de sang sur sa peau desquamée avec incrédulité. Le sang n'avait pas l'air plus clair, il ressemblait à du sang normal, mourant à l'air libre. Avec un air suffisant, aussi suffisant que le désert. Il secoua la main, éprouvant de la haine à l'état pur pour ses gouttes. Suffisant ? Pourquoi pas ? Le sang n'avait pas soif, lui. Le sang se faisait servir. Le sang se faisait offrir un sacrifice. Un sacrifice par le sang. Tout ce que le sang avait à faire, c'était couler, et couler, et couler. Il baissa les yeux sur les éclaboussures qui avaient giclé sur la croûte dure et les regarda se faire aspirer avec une rapidité troublante. « Qu'est-ce que tu dis de ça, le sang ? Qu'est-ce que ça fait? Hein? Oh, doux Jésus, je suis mal barré. Il se leva en se tenant la main contre la poitrine. Et ce qu'il avait aperçu un peu plus tôt se trouvait en face de lui, si près qu'il en poussa un cri, un croassement roué de poussière. C'était un bâtiment, non, deux bâtiments, entourés d'une clôture écroulée. Le bois semblait vieux et fragile, sur le point de se décomposer, du bois en train de se métamorphoser en sable. L'un des bâtiments avait été une écurie, la forme était caractéristique, impossible de se méprendre. L'autre était une maison, ou une auberge, une gare de relais sur la ligne de diligence. La maison, tremblante en bois, le sable avait formé une croûte sur la charpente, jusqu'à la faire ressembler à un château de sable que le soleil avait durci à petit feu en faisant une demeure temporaire, dessinait une ombre fine, une ombre dans laquelle quelqu'un était assis, appuyé contre le bâtiment. Et le bâtiment semblait pencher sous le fardeau de ce poids. Son poids à lui, donc. Enfin, l'homme en noir. Le pistolero se tenait debout, les mains contre la poitrine, sans avoir conscience de sa posture déclamatoire, bouche bée. Mais au lieu de l'excitation immense à laquelle il se serait attendu, ou peut-être la peur ou un effroi mêlé d'admiration, il ne ressentait qu'une culpabilité imprécise et atavique, causée par l'excès de haine aveugle que lui avait inspiré son propre sang quelques instants auparavant, et par cette comptine qui tournoyait sans fin dans son esprit. De pluie, plic-ploc, il avança, dégainant l'une de ses armes. Les plaines sont pleines. Il parcourut les 300 derniers mètres en courant, une course cahotante et ramassée, sans chercher à se cacher. Il n'y avait nulle part où se cacher. Son ombre courte essayait de le prendre de vitesse. Il n'était pas conscient de ce que son visage n'était plus qu'un masque mortuaire d'épuisement, gris et poussiéreux. Il ne voyait rien, hormis la silhouette dans l'ombre. Il ne lui vint à l'esprit que plus tard, que peut-être cette silhouette était celle d'un mort. Il envoya un coup de pied dans une des barrières, qui se brisa en deux, sans un bruit, semblant presque s'excuser, et traversa d'un bond en avant la cour de l'écurie, baignée de silence et de lumière aveuglante, brandissant son arme. « Tu es cerné ! Tu es cerné ! Les mains en l'air, espèce de fils de catin ! Tu es... » La silhouette s'agita nerveusement et se leva. Le pistolero se dit « Mon Dieu, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Que lui est-il arrivé ?» Car l'homme en noir avait rapetissé de 60 bons centimètres et ses cheveux avaient complètement blanchi. Frappé de stupeur, il s'immobilisa, la tête bourdonnant d'une mélodie éraillée. Son cœur battait à un rythme des plus lunatiques et il se dit « Je suis en train de mourir ici. » Il inspira, faisant s'engouffrer dans ses poumons l'air chauffé à blanc, et il baissa la tête une seconde. Lorsqu'il la releva, il se rendit compte qu'il n'avait pas devant lui l'homme en noir, mais un garçon aux cheveux décolorés par le soleil, qui le contemplait avec des yeux dans lesquels ne brillait même pas une lueur d'intérêt. Le pistolero le dévisagea d'un air impassible, puis secoua la tête incrédule. Mais le garçon survécut à son refus de croire. C'était une illusion forte, une illusion vêtue d'un jean rapiécé aux genoux et d'une chemise marron en toile grossière. Le pistolero secoua de nouveau la tête et les yeux au sol et l'arme toujours à la main, se dirigea vers l'écurie. Il n'arrivait pas encore à penser. Il avait la tête remplie de sable et il sentait monter une énorme douleur lancinante. À l'intérieur, l'écurie était sombre et silencieuse et étouffante de chaleur. Les yeux exorbités et le regard brouillé, le pistolero inspecta les alentours. Il fit volte-face en titubant et vit le garçon debout dans l'embrasure de la porte écroulée qui le fixait. Une lame de douleur lui transperça lentement la tête d'une tempe à l'autre, découpant son cerveau comme une orange. Il rengaina son arme, vacilla, tendit les mains comme pour repousser des fantômes et tomba face contre terre.